À voix nue. Cette semaine, Maïlys Bessery rencontre Alain Duhamel. Ce soir, l'ennemi médiatique numéro 1.
Alain Duhamel, bonsoir.
Bonsoir.
Alors hier, nous nous sommes arrêtés à la campagne présidentielle de 1981, celle qui va entraîner la première alternance de la Ve République. Vous avez été bien sûr un observateur privilégié et un commentateur de cette campagne, mais vous avez étonnamment été pris aussi dans l'événement. Le soir de l'élection de François Mitterrand, le 10 mai 81, place de la Bastille, puisque la foule a scandé Jean-Pierre Elkabbach, Étienne Moujotte et les frères Duhamel. Oui. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce moment?
Alors, ça a été une grande surprise, parce que c'est quelque chose qui ne s'était jamais produit, à l'occasion d'aucune élection présidentielle précédente, et qui ne s'est jamais produit depuis. Il y avait une foule qui était évidemment enthousiaste, place de la Bastille, parce que ça faisait 23 ans que la gauche était dans l'opposition. Ceux qui étaient là, c'était évidemment des militants ou des activistes, enfin ceux qui étaient les plus concernés, qui se sentaient les plus concernés. Et effectivement, ils ont scandé les symboles de la télévision et de la radio de l'époque. Bon, c'était assez désagréable. Simplement, la grande différence, c'est que si c'était aujourd'hui, ça serait insupportable.
Alors, qu'est-ce qui serait insupportable?
Mais justement, à l'époque, c'était comme ça le soir, et puis le lendemain, bon, c'était dans les journaux, et puis le surlendemain, on passait à autre chose. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et l'information continue, ça aurait été une dramatisation absolue qui aurait, en plus, tourné en rond pendant des jours et des jours. Ça aurait été, franchement, ce que je me suis dit, mais je me suis dit ça longtemps après, quand il y a eu les réseaux sociaux et qu'ils ont commencé à exercer leur influence, vraiment. Donc, disons, à partir du début des années 2000, je me suis dit, s'il y avait eu ces réseaux sociaux et cette information continue à l'époque, franchement, j'aurais changé de métier. D'ailleurs, on m'a proposé de le faire à ce moment-là.
De partir au Canada.
Oui, on m'a proposé deux choses. On m'a proposé d'être professeur associé à la Sorbonne, et puis on m'a proposé d'être professeur invité dans une grande université canadienne pour expliquer les méthodes du gouvernement en France.
Bon. Qu'est-ce que vous avez compris, Alain Duhamel, de cet événement? Pourquoi est-ce que, d'un coup, à l'élection d'un président entraînait une sorte de critique tacite d'une part de la population, d'ailleurs pas tacite, mais plutôt explicite, d'une part des journalistes présents, effectivement, à la télévision, à la radio, dans la presse écrite? Est-ce que c'est l'omniprésence d'un petit groupe de journalistes? Est-ce que c'était ça, la critique?
Écoutez, je pense que le fond des choses, c'est que une partie des Français avait à la fois l'espoir et l'impression qu'on allait changer de société. Et donc, quand on a l'impression qu'on est sur le point de changer de société et qu'on y a participé, qu'on a voté dans ce sens, bah évidemment, il y a des expressions publiques qui sont pas, disons, de registre sénatorial. Hein. Ça devient bruyant, c'est conflictuel. Ça c'est le, si j'ose dire, c'est le décor de fond. Là-dessus, il faut pas oublier qu'à cette époque-là, il y avait encore deux chaînes et demie hein, à la télévision. Donc ce qu'on voyait, on les voyait beaucoup plus qu'aujourd'hui. Hein, les choses, forcément, l'attention se concentrait sur ceux qu'on voyait le plus. Bah, il se trouve que Jean-Pierre Elkabbach et moi à la télévision, Étienne Moujotte à Europe numéro 1, mon
frère
sur TF1, c'est vrai qu'on nous voyait beaucoup. Et donc c'est vrai qu'on devenait des symboles.
Bon. Il y avait aussi cette presse que vous racontiez hier comme giscardienne ou considérée comme telle.
Oui.
Est-ce que c'était ça aussi qui était mis en
avant?
Oui,
bien sûr qu'il y a eu de ça. Et puis, en ce qui me concerne, il y avait en plus le fait que j'étais à la fois à la télévision, à la radio où je faisais un éditorial, que je publiais des articles fréquents dans Le Monde ou dans l'Express. Donc, j'avais une présence. Ça, je peux pas dire le contraire. Si j'ose dire, les quatre qui ont été mis en avant avaient des formes de giscardisme assez différentes. Mais ça, c'est la vie. On a été réunis comme ça dans une opprobre qui a duré 48 heures, hein, en réalité, sur le plan public. Mais pour les autres, c'est-à-dire pour Étienne Moujotte, Jean-Pierre Elkabbach et mon frère, ça s'est traduit quand même par des exclusions. C'est-à-dire qu'en gros, on les a mis dehors.
Bon. Alors vous-même, vous avez été un peu écarté pendant un an, doucement, de l'antenne?
Pas un an. Alors, de la télévision.
De la télévision.
La télévision, oui. Alors, la télévision, franchement, j'ai eu de la chance. J'y suis absolument pour rien. C'est Pierre Desgroupes qui est revenu. Et Pierre Desgroupes, il considérait que j'étais un bon journaliste et qu'il avait envie que je continue à faire quelque chose. Donc je l'ai vu assez vite, ça demande. Et il m'a expliqué qu'il fallait être diplomate, donc on ne me voit pas pendant un an, une saison. Et puis que je réfléchisse à une émission, et il m'a dit « essayez de trouver une idée un peu originale d'émission ». C'est comme ça que je suis arrivé à l'idée de l'heure de vérité. Et donc, bah, dès qu'il y a eu l'heure de vérité, je suis revenu, et puis voilà. À Europe 1, je n'ai pas disparu. D'abord, j'ai conservé le Club de la Presse, qui était quand même une émission importante, et puis une chronique au début sans intérêt. Même le président de l'époque, qui trouvait que c'était pas juste, je sois mis à l'écart, mais qui ne voulait pas prendre le risque d'une confrontation politique, m'a dit, avec votre culture, en fait, vous devriez faire un éditorial quotidien culturel. Alors je lui dis, moi, je suis désolé, je suis éditorialiste politique, je vais être éditorialiste politique. Bon, et puis Philippe Gildas, qui donc avait repris l'information, en fait, m'a fait, il m'avait prévenu, il m'a fait intervenir d'abord deux fois par semaine, puis trois fois, puis tous les jours. Et au bout de six mois, j'avais retrouvé non pas forcément le même créneau, mais la même présence.
Alors Alain Duhamel, là, c'est une période particulière qui commence pour vous, parce qu'il y a eu cette légère mise à l'écart qui ne dure pas, et en même temps... Il y a ces liens très forts avec François Mitterrand qui existaient déjà depuis plusieurs années. Et François Mitterrand est devenu président, continue à vous recevoir, à vous voir. Là, c'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour vous et ça se sait professionnellement assez rapidement.
Alors, surtout, ce qui est assez amusant, c'est que comme c'était pour certains changements de société, etc., il faut se rendre compte... 23 ans dans l'opposition, ce que ça peut représenter. Donc, il y avait des volontés de revanche aussi. Puis il y avait forcément des jalousies. Enfin, c'est inévitable. Ce qui fait que il y a beaucoup de journalistes qui me regardaient du coin de l'œil en disant comment il va se débrouiller celui-là. Bon, François Mitterrand m'a appelé trois jours après être entré à l'Élysée. C'est lui qui m'a appelé et il m'a appelé pour me dire naturellement nos relations ne changent pas parce que j'ai été élu président, on continuera à se voir de la même façon. D'ailleurs en réalité on s'est vu encore plus, enfin ça je le savais pas à ce moment-là. Et il m'a dit « Et vous pouvez dire autour de vous que je vous ai appelé ?» Je lui ai répondu « Écoutez non, je vais pas dire autour de moi que vous m'avez appelé parce que ça voudrait dire que je vous considère comme un parapluie. Et je pense que dans votre esprit vous êtes davantage qu'un parapluie. » Et il m'a dit « Oui, vous avez raison. » Je vais penser à autre chose. Et la semaine suivante, bah pourtant il avait autre chose à faire, hein, c'était le début de l'installation au pouvoir. La semaine suivante, il m'a invité à déjeuner à l'Élysée. Et bien entendu, dès qu'il m'a invité à déjeuner à l'Élysée, ça s'est su. Bon, et alors ce qui a été très drôle, c'est qu'il y a une bonne partie de son entourage immédiat qui considérait que j'étais un adversaire terrible et qu'il fallait absolument me mettre à part, et alors qui ont été... abasourdi que François Mitterrand m'invite à déjeuner. Ils ont évidemment pris ça pour un message aussi à leur intention. Donc il y a eu une série de gens qui étaient un peu, pour certains, déçus que ça se passe différemment de ce qu'ils avaient prévu. Et puis pour d'autres, le plus grand nombre, vraiment étonnés.
Alain Duhamel, c'est un phénomène qui avait commencé déjà avec Valéry Giscard d'Estaing. Vous le voyez régulièrement, vous aviez été invité plusieurs fois et à prendre le thé rue de Rivoli et autres. Là, cette relation de proximité, elle est la plus forte que vous connaîtrez probablement avec un président de la République. Ouais. Comment est-ce que vous envisagez ces liens-là, alors même que politiquement, vous n'êtes pas à proprement parler mitterrandien, même si vous avez voté pour lui en 1974, et que finalement, vous devez, à votre profession, une forme de liberté d'opinion.
En réalité, j'ai toujours eu des relations un peu particulières avec les présidents successifs. Il s'est trouvé qu'on parlait beaucoup et que... Je ne vais pas dire qu'ils y trouvaient un grand intérêt, ça serait ridicule. Mais enfin, ça les intéressait assez pour qu'ils recommencent, en tout cas. Avec François Mitterrand, ça a été particulier, puisqu'il savait très bien que je n'étais pas socialiste, et surtout parce qu'en réalité, il y a beaucoup de domaines sur lesquels j'étais complètement d'accord avec lui, comme par exemple sur les questions européennes, pour prendre un exemple qui était important à cette époque. Mais j'avais critiqué, et je continuais à critiquer, le programme économique et ce qu'il était en train de mettre en œuvre. Donc du coup, on avait des relations qui étaient très saines, parce qu'à la fois, on s'entendait très bien, on se voyait beaucoup, il m'invitait chez lui, à dîner chez lui, à son domicile privé.
Il passait en vacances chez vous, dans la famille de votre épouse.
Oui, il venait dîner ici aussi. Donc on avait des relations qui étaient sur un registre amical.
Très proche.
Amical, bon, on n'est jamais très proche d'un président quand on n'est pas de son camp et qu'on dépanne ses collaborateurs. Il faut pas.
Quand il passe dans votre maison en vacances, on est quand même dans un rapport d'intimité.
On avait une vraie amitié et puis un vrai plaisir à non seulement à parler, mais à discourir pendant des heures. Et on avait énormément, en réalité, on avait énormément de sujets d'intérêt vraiment communs. Bon, on se passionnait pour l'histoire de la diplomatie pendant l'entre-deux-guerres, par exemple, parce que ça expliquait beaucoup de ce qu'étaient les choses au moment où il devenait président. Bon, bah, c'est sûrement un type de conversation qu'il n'avait pas avec tout le monde, y compris avec ses propres collaborateurs. D'ailleurs, il me disait toujours, en blaguant, celui-là, c'est sûrement un grand économiste, mais alors, sur l'histoire littéraire, vraiment, il faut pas le pousser trop loin. Enfin, bon. Il aimait bien hein, les petites piques sur les autres, mais il prenait beaucoup de plaisir à faire des galeries de portraits de ses plus proches, qui étaient quelquefois très sympathiques et qui étaient quelquefois beaucoup moins aimables. Et donc, on avait vraiment un type de relation que je crois on a assez rarement entre un journaliste ayant ses opinions et un président ayant d'autres opinions.
Alors si on pense à ce moment-là à d'autres régions du monde dans lesquelles le journalisme se doit de se séparer strictement de la sphère politique, comment est-ce que vous envisagiez justement ces rapports-là tout en étant éditorialiste, commentateur politique, observateur, essayiste, Alain Duhamel ?
Dans mon esprit, c'était justement parce que j'étais éditorialiste, chroniqueur et essayiste que ce type de relation était non seulement précieux, mais incomparable. Évidemment, François Mitterrand ne me disait pas, quand il me voyait, dans 3 semaines, je vais faire telle ou telle chose. Mais en revanche, il m'expliquait vraiment ses ressorts et ses objectifs, disons, à moyen terme. Ça me permettait de comprendre et de savoir des choses que d'autres ne pouvaient pas comprendre et savoir, en tout cas beaucoup moins facilement. Et pour moi, le fait d'avoir des contacts avec un président, mais avec les dirigeants de l'opposition de la même façon, hein, avec les dirigeants politiques, c'est d'abord une source d'information totalement incomparable, hein, qui a rien à voir avec les textes qui sont en général très mauvais d'ailleurs, dans lesquels ils sont censés définir leur programme ou leur projet. Et en plus, c'était un privilège, c'était un coup d'avance que j'avais dans ces conditions-là. Donc évidemment, ça plaisait pas à tous mes confrères, parce que le fait que j'ai un coup d'avance, c'était pas forcément agréable, même si mon registre n'est pas du tout celui de proclamer à l'avance que je connais tel scoop et que ça va être formidable. Ça m'intéresse pas du tout, ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de comprendre les choses quand elles se produisent. Et pour comprendre les choses quand elles se produisent, mieux vaut à l'avance en avoir parlé avec les acteurs. Et puis la politique, ce sont des hommes et des femmes. La politique, ce sont pas des chiffres, et ce sont pas des statistiques ou des équations. Ceux qui se figurent qu'on peut comprendre la politique en restant loin des hommes et des femmes politiques, soit ils sont bornés, soit ils racontent des histoires.
Oui, mais Alain Duhamel, vous savez très bien que les journalistes représentent aussi quelque chose, surtout quand ils passent à la télévision, surtout quand ils sont des personnalités publiques. Votre nom avait été hué à la Bastille, vous aviez fait un examen de conscience, vous aviez des règles aussi à vous fixer dans ces relations-là, j'imagine, avec la classe politique, en particulier avec le président.
Mais j'ai toujours eu mes propres règles.
Quelles étaient-elles ?
Mes propres règles, c'était un... Si je peux avoir un bon contact avec ceux qui m'intéressent, hein, parce que il y a beaucoup de gens avec qui je n'ai pas non plus cherché à avoir de bons contacts, mais avec ceux qui m'intéressent, je le fais. Deux, je le fais sur un pied d'indépendance personnelle, c'est-à-dire que c'est pas parce que je déjeune avec Georges Marchais, ce qui a quand même bien dû m'arriver 20 ou 30 fois dans ma vie, que je suis un communiste stalinien. Bon, il y a des règles. Et il suffit...
La règle, c'est d'être libre, en fait.
La règle, c'est d'être ce qu'on est. De pas avoir l'air, quand on rencontre quelqu'un, d'être de son avis, d'être de ses amis, d'être de ses obligés, voire d'être de ses militants. Je veux dire, quand je discutais avec Valéry Giscard d'Estaing, je lui disais pas, bravo, monsieur le président, c'est formidable, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? C'était pas du tout ça. C'était pourquoi est-ce que vous prenez telle initiative, quels en seront les objectifs, etc. Et puis, l'avantage aussi, quand on voit les gens soit en tête à tête, soit en tout petit comité, c'est que on peut poser un tas de questions en allant beaucoup plus loin, évidemment, parce qu'on a plus de temps déjà, parce que leur disposition d'esprit n'est pas la même. Donc, il faut avoir l'accès. Pour avoir l'accès, il faut que ça soit naturel. Il ne faut pas se flageller, se prosterner pour avoir l'accès. Il faut avoir son indépendance. Bon, moi, de toute façon, je veux dire, mes convictions personnelles, elles n'ont, sur les grands choix, elles n'ont jamais bougé. Donc, on le savait, hein, je le disais, je l'écrivais. Donc, il n'y avait pas de surprise pour mes interlocuteurs.
Mais il y a aussi la question de qu'est-ce qu'on fait de l'information qu'on recueille.
Absolument.
Qu'est-ce qu'on fait du off?
Mais moi, ça a été extrêmement simple. Compte tenu du type de relation que j'avais avec eux, il était exclu que je casse du off. C'était exclu. Mais c'était exclu dans ma tête, c'est pas eux qui me le demandaient, d'ailleurs ils savaient que je ne le ferais pas, mais pour moi ça allait de soi. Mais en revanche, c'est ce qui leur permettait, ben, quand Chirac était président, qui me faisait venir, comme il l'a fait régulièrement, avant les conseils européens, et il me disait, pourtant Dieu sait qu'on n'était pas souvent d'accord, hein, et en particulier en matière européenne, mais il me disait, voilà ce que sont mes objectifs, les objectifs de la France, pour ce conseil européen. Bon, et puis ensuite, le conseil avait lieu, d'ailleurs, en général, après, soit il m'appelait, soit il me fait venir, est-ce que vous trouvez que j'ai atteint mes objectifs ou pas? Bon, il y a eu une fois, enfin, célèbre entre nous deux, où j'ai trouvé, justement, qu'il les avait non seulement pas atteints, mais complètement sabotés, le traité de Nice. Et donc, là, on a vraiment eu un vrai conflit. Bon, mais le fait de savoir à l'avance qu'étaient ses objectifs, ça me permettait quand même de bien comprendre ce qui se passait ensuite.
Alors, vous n'étiez pas le seul, Alain Duhamel, dans cette situation. Vous étiez probablement l'un des journalistes les plus proches de François Mitterrand, mais dans ces relations un peu complexes entre les dirigeants au sens large et les journalistes, il y avait, d'ailleurs, vous décrivez dans Journal d'un observateur, les rapports aussi de Jean-Pierre Elkabbach avec d'autres présidents. Donc, il y avait ces liens-là, forts, parfois un peu passionnels, avec des engueulades et des rabibochages. Comment est-ce que, justement, de manière générale, ces relations là a été vécue, et de l'extérieur, est-ce que vous comprenez qu'elles aient pu être aussi un peu critiquées le public qui finalement n'a pas d'autre garantie que la morale que s'impose le journaliste lui-même, ce qui est une faible garantie de l'extérieur.
Oui,
vous en conviendrez.
Il ne faut pas confondre les politiques, les journalistes et le public. Le public, en règle générale, il a toujours très bien su ce que je pensais, puisque je le disais, je l'écrivais. Donc, il voyait bien que j'avais ma cohérence. Et donc, j'ai jamais ressenti, en dehors du jour du 10 mai 81, autrement, j'ai jamais ressenti de la part du public une espèce de méfiance, sous prétexte que je connaissais bien X ou Y. Au contraire, c'était plutôt, a priori, ça suscitait plutôt de l'intérêt qu'autre chose. Puis, de toute façon, ils voyaient bien mon comportement à la télévision vis-à-vis de ces politiques, vis-à-vis des présidents et vis-à-vis de leurs adversaires. Ils voyaient bien que je ne me prosternais pas, que je posais les questions que j'avais envie de poser, que si on n'était pas d'accord, je soutenais mon point de vue, que j'étais libre avec eux, ils le voyaient. Donc, vis-à-vis du public, il n'y a pas eu de problème. Bon, vis-à-vis de certains confrères, il y en a eu, d'abord parce qu'ils n'avaient pas forcément le même accès, bon, et qui ne suscitaient pas la même confiance sur le fait qu'on pouvait me dire des choses à l'avance, et qu'ils savaient que si je ne devais pas l'utiliser, je ne l'utiliserais pas, mais qu'en revanche, le jour venu, ça me donnerait évidemment un éclairage que les autres n'avaient pas. Bon, certains pensent que c'est impossible à réaliser. Moi, je dis, chaque journaliste a son mode d'emploi. Moi, mon mode d'emploi, il était connu, il n'a jamais varié, et le public pouvait vérifier que ça se passait comme ça. Donc, en réalité, je ne peux pas dire que j'ai eu de problème de morale personnelle en ce qui concerne mes relations avec les politiques.
Par rapport à votre indépendance, justement, il y avait une autre arme dont vous disposiez, Alain Duhamel, c'était celle de la plume et des essais que vous avez pu écrire, y compris sur François Mitterrand. C'est votre deuxième livre, La République de Monsieur Mitterrand.
Oui.
Donc, c'était une manière aussi de pouvoir garder cette liberté-là.
Alors, ce qui est absolument vrai, c'est que ça n'est pas par hasard si à la fois j'étais télévision, radio, presse écrite et essai. Dans mon esprit, c'était d'abord, c'était quand même le ressort principal, parce que toutes ces formes d'expression-là m'intéressaient. Bon, autrement, je ne l'aurais pas fait, ça aurait été masochiste. Bon, mais c'était aussi parce que c'était une garantie d'indépendance. On savait très bien que si on me retirait une émission de télévision, je ne disparaissais pas de l'univers. Que je continuais à avoir la presse écrite, etc., puis que probablement on me proposerait une autre émission ailleurs. Donc, si vous voulez, le fait d'avoir une diversité de canaux d'expression...
Que vous avez préféré, d'ailleurs, à la progression hiérarchique.
Absolument. J'ai toujours refusé tout poste hiérarchique. Dieu sait qu'on m'en a proposé, puisqu'à partir du moment où on a une certaine notoriété, on se croit obligé de vous proposer d'être directeur de la rédaction, directeur général, etc. On m'a proposé d'être directeur général de France 2. je n'ai pas hésité un millième de seconde à dire non. On m'a proposé d'être directeur général d'Europe 1, je n'en ai rien à fiche d'être directeur général. Ça ne m'intéresse pas. C'est pas un travail qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la connaissance, l'interprétation, l'explication, la pédagogie, voilà. Et le reste ne m'intéresse pas. Et en plus, je serais inapte, hein. Franchement, j'ai pas du tout les qualités pour ça. Je me vois pas du tout présider un comité d'entreprise ou décider quel matériel on doit acheter pour équiper un studio. Je n'y connais rien. Je ne sais même pas dans quel sens on tourne un bouton, d'ailleurs. Donc, je suis inapte. J'ai eu la chance, c'est ça mon privilège, d'ailleurs c'est pour ça que je continue encore pour l'instant, j'ai eu la chance de faire dans ma vie exactement ce qui m'intéressait. Bon, je vais pas m'en plaindre quand même, et je ne vais pas non plus m'en excuser.
Alors après, justement, il y a eu cet essai sur François Mitterrand. Il y avait l'heure de vérité que vous avez commencé à évoquer. L'heure de vérité, ça va continuer jusqu'en 1995 et ça va être un lieu privilégié pour découvrir aussi les changements politiques de l'ère Mitterrand. Et il va y avoir l'émergence de la personnalité de Jean-Marie Le Pen qui est là depuis longtemps, mais qui fait exploser l'audience de l'heure de vérité.
Oui. Alain Duhamel. L'heure de vérité, à l'époque, les deux émissions politiques qui comptaient, c'était l'heure de vérité et 7 sur 7. Alors, 7 sur 7 évoluait plus parce que la formule évoluait et parce que les présentateurs changeaient. En revanche, l'heure de vérité, ça a toujours été les mêmes pendant 13 ans. Bon. Et donc on a été à la fois, on a reçu les principaux dirigeants, mais on a vraiment fait éclore et vu éclore d'ailleurs sous nos yeux, mais avec plaisir, une nouvelle génération.
Avec François-Henri de Virieux.
Avec François-Henri de Virieux, et puis avec Albert Duroy, avec Jean-Marie Colombani, etc. On a vu naître, d'une certaine manière, on a contribué à faire naître Nicolas Sarkozy, François Bayrou, François Hollande, Ségolène Royal, en fait, une nouvelle génération. Mais c'est vrai que la décision politique qu'on a eue, la plus compliquée à prendre, ça a été, est-ce qu'on invite ou est-ce qu'on n'invite pas Jean-Marie Le Pen, qui n'avait jamais été invité auparavant à une émission politique. Or, il se trouvait que le Front National, qui avant était un groupuscule, venait de remporter, non pas des succès, mais une forte progression dans plusieurs élections municipales partielles autour de Paris, et qui avait visiblement un phénomène. Il y avait l'émergence d'une extrême droite pour la première fois depuis la guerre. Et donc la question s'est posée de savoir si on l'invitait ou pas. Et c'est la seule fois dans ma vie, donc en 60 ans de métier en gros, où on a entre nous voté pour savoir qui était pour l'invité et qui était contre l'invité. Et à l'arrivée, c'était 3-2. Et donc, on l'a invité. Et j'étais dans les 3 qui avaient voté pour, parce que je considérais que, du moment qu'il y avait un phénomène, c'était à nous de le traiter. On était là pour ça, comme tout phénomène, qui nous plaise ou qui ne nous plaise pas. En l'occurrence, franchement, il n'y avait aucun d'entre nous qui avait la moindre sympathie pour Jean-Marie Le Pen. Mais vraiment aucun.
Alors, au regard, justement, de l'impact télévisuel qu'a pu avoir Jean-Marie Le Pen, grand orateur que l'on connaît, au regard, justement, de l'importance qu'a pris la télévision dans les campagnes successives, pas uniquement présidentielles, d'ailleurs, est-ce que vous avez eu des regrets à l'égard de cette décision-là, Alain Duhamel? Est-ce que vous vous êtes senti, justement...
Coupable.
Pas coupable, on n'est pas coupable d'avoir invité quelqu'un une fois, mais d'avoir peut-être lancé quelque chose... Non, alors, dans le paysage médiatique.
Alors, on n'a rien lancé du tout. On a mis en scène un phénomène qui existait. On a mis en télévision un phénomène qui existait dans les urnes.
C'est ça que j'appelle lancer. À la télévision.
Oui, c'est ça, mais il y a d'abord eu les votes. Autrement, il n'y aurait pas eu d'invitation. Non, ce qui était imprévu et que personne ne pouvait savoir, d'ailleurs, y compris l'intéressé, c'est que Jean-Marie Le Pen, qui jusqu'à présent était considéré comme un trublion marginal, en fait avait un charisme et une présence phénoménale à la télévision. Et donc que la télévision l'a immédiatement fait progresser dans la notoriété, évidemment, mais pas seulement dans la notoriété. Ça a assuré un pouvoir sur une fraction de l'opinion. Et qui a été une fraction croissante. Et en fait, à l'heure de vérité, bon, donc on devait avoir, quand c'est devenu hebdomadaire, disons qu'on avait une 40aine d'invités par an, de toute sensibilité, qui n'étaient pas tous des politiques. Il y avait aussi des chefs d'entreprise, des syndicalistes, quelquefois des grands intellectuels, ou des personnalités qui étaient intéressées à ce moment-là. Mais on a pratiquement invité une fois par an Jean-Marie Le Pen, qui à chaque fois a fait un score quasi record. Et on nous a reproché de l'inviter chaque année, mais on invitait une 40aine de personnes. Sur ces 40, il y avait une 30aine de politiques. Bah, il fallait bien que l'extrême droite soit représentée quand même dans la trentaine de politiques. On avait, mettons, 6 ou 7 socialistes, on avait 6 ou 7 RPR, on avait 3 ou 4 centristes, 2 trotskistes, 3 ou 4 communistes. Il fallait bien qu'il y ait une fois l'extrême droite, et l'extrême droite, c'était Jean-Marie Le Pen. C'était pas Bruno Maigret, c'était pas sa fille qui, à l'époque, était en barboteuse, c'était lui.
Après la réélection de François Mitterrand, en 88, puis la cohabitation, vous nouez en parallèle des liens avec Lionel Jospin, que vous connaissez d'ailleurs depuis longtemps. Et Lionel Jospin, ça va être une autre forme d'amitié politique pour vous, Alain Duhamel.
Oui, alors c'était assez spécial avec Lionel Jospin. Bon, on avait en commun d'abord un esprit de sérieux. Ensuite, on avait en commun le fait qu'on s'intéressait au même sujet et le fait que l'un comme l'autre, c'était le moment où la politique commençait à être complètement décriée et caricaturée. Et l'un comme l'autre, pour des raisons parallèles, au contraire, on était très attachés à essayer de défendre, disons, pour employer des grands mots, la dignité de la politique. En plus, on avait un type de culture relativement proche, et on s'entendait bien. Mais on avait, chacun de nous deux, des principes.
Vous dites même psychorigide,
oui,
tous les deux,
oui. Alors,
avec humour.
Alors c'est très connu à propos de Lionel Jospin, c'est moins connu à mon sujet, mais c'est tout aussi vrai. Autrement dit, on s'était fixé des règles, en particulier, alors pour le coup, Lionel Jospin, qui n'aime pas se confier, et en particulier pas à des journalistes, me disait des choses parce qu'il s'était convaincu que jamais rien ne sortirait sans son aval de ce qu'il me disait. Et ça, je crois que c'est quelque chose qu'il a accordé à très très peu de journalistes. Et on s'était vraiment fixé des règles de fonctionnement presque, elles n'étaient pas écrites, mais plus élaborées qu'avec n'importe qui d'autre. Lionel Jospin s'est quand même beaucoup méfié des journalistes. Moi, je me suis quand même beaucoup méfié des politiques. Et donc, nos deux méfiances se barricadaient et on s'entendait bien. Et en même temps, on était d'accord sur le fait que c'était dans des limites et dans des conditions bien précises. Ben, ça a fonctionné. C'est bizarre, mais ça a fonctionné. Alors, quand on a fait ensemble, quand il a été candidat à la présidentielle...
Alors justement, c'est dans ce contexte-là qu'il arrive comme candidat, justement, de l'élection suivante, après la fin du deuxième mandat de François Mitterrand. Et vous le voyez arriver, émerger comme candidat, en même temps qu'en face, il y a Jacques Chirac et Édouard Balladur encore.
Alors, quand Jospin a émergé comme candidat, c'est-à-dire extrêmement tard, hein, puisque en réalité, le candidat, c'était Jacques Delors. Et puis Jacques Delors n'a pas voulu. Et moi, j'ai cru jusqu'au bout, puis j'ai souhaité jusqu'au bout que ce soit Jacques Delors. Parce que c'était quelqu'un pour qui j'avais beaucoup d'amitié, beaucoup de respect, et dont je pensais que, notamment en matière européenne, il pourrait faire ce que personne d'autre n'était capable de faire, comme il l'avait déjà démontré d'ailleurs. Et puis, quand il a refusé de façon spectaculaire dans l'émission d'Anne Sinclair, quand il a refusé d'être le candidat en pensant qu'il n'aurait pas de majorité parlementaire, ce qui prouve bien qu'il n'était pas politique du tout, parce qu'il l'aurait eu, la majorité parlementaire, mais quand il a décidé de ne pas y aller, c'est Lionel Jospin qui y a été. Et Lionel Jospin, à ce moment-là, alors il faut pas oublier que 2 ans avant, le PS avait été balayé aux élections législatives, que lui-même avait été battu, qu'il n'avait plus comme mandat que conseiller général de Sainte-Gabelle, bon, ce qui était quand même assez modeste, et il a émergé à une vitesse formidable, et il est devenu un candidat de bonne qualité, et qui, contrairement aux sondages, parce qu'on dit toujours les sondages se trompent pas, si, quelquefois ils se trompent, contrairement aux sondages, est arrivé avec le meilleur score pour se qualifier pour le second tour. C'est lui qui est arrivé en tête pour se qualifier pour le second tour face à Chirac. Et il se trouve que j'ai été choisi par Chirac et par lui pour animer le débat présidentiel.
Merci Alain Duhamel, à demain.
À demain.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Maïlys Bessery avec Alain Duhamel. À voix nue, réalisation Anna Schmuck. Prise de son Jordan Robert. Coordination Claire Poinsignon. À voix nue s'écoute en ligne et se podcast sur franceculture.fr.